Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Amen. Bonjour tout le monde. Saint-Esprit, merci de nous faire l'honneur de ta présence dans ce lieu. Seigneur, sans ta présence, nous ne pouvons faire la différence. Mais quand tu es présent, alors tout peut se produire. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, et ton peuple t'a loué ce matin. Que ta présence qui amène la délivrance, ta présence qui manifeste ta puissance soit notre portion. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ce lieu, comme tu le veux. Le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, frères et sœurs, nous allons voir la suite du message du week-end dernier sur l'humilité. C'est un message crucial et ô combien important. L'humilité est une vertu vitale pour le chrétien. Il y a plein d'autres vertus importantes, la joie, la paix, la sagesse, etc. Mais en ce moment, nous mettons l'accent sur l'humilité et nous découvrons ensemble ô combien c'est une qualité qui fait partie intégrante du caractère de Christ. Et nous avons vu la semaine dernière donc qu'est-ce que l'humilité, et ce matin nous allons voir la puissance de l'humilité 2. Et la semaine dernière nous avons vu ce qu'est l'humilité en commençant par voir ce que n'était pas l'humilité. On a vu que l'humilité ce n'est pas la pauvreté, on a vu que l'humilité ce n'est pas se dévaluer, on a vu que l'humilité ce n'est pas perdre son identité, on a vu que l'humilité ce n'est pas être attristé, on a vu que l'humilité ce n'est pas être simple d'esprit, on a vu que l'humilité ce n'est pas s'élever mais aider beaucoup à se relever. On a vu que l'humilité, ce n'est pas penser moindre de soi, mais c'est penser moins à soi. On a vu que l'humilité, c'est vanter Dieu. On a vu que l'humilité, c'est exalter l'autre par amour. Ensuite, on a vu ensemble que devenir humble ou être humble, ce n'est pas quelque chose d'accidentel. La parole de Dieu dit « revêtez-vous d'humilité ». Et on a vu ensemble que pour se revêtir de nos vêtements, il faut choisir, il faut faire un effort, il faut être intentionnel, parce que ce matin, tu portes ce que tu portes, parce que tu as pensé à porter ce que tu portes. Tu as pensé à mettre telle chemise, tel t-shirt, tu as été intentionnel. Et pour devenir humble et pour grandir dans l'humilité, nous devons être intentionnels, faire le choix de devenir humble. On ne devient pas humble par accident, on avait vu ça. Et on a commencé à répondre aussi pourquoi il est essentiel de se revêtir d'humilité. Et on a commencé à voir trois points, et j'aimerais ce matin poursuivre ces points. En tout cas, j'ai 9 points à partager avec vous, mais je ne pourrai pas voir les 9 points dans le détail. Je vous en parlerai. Je ferai allusion, mais on va à nouveau voir quelques points parmi ces 9 en creusant. Mais j'aimerais aussi vous rappeler qu'on a vu la fois dernière qu'il était important, essentiel de se revêtir d'humilité, parce que l'humilité nous permet d'entendre la voix de Dieu. On a vu qu'il était important de se revêtir d'humilité parce que l'humilité attire l'intervention de Dieu comme un aimant. On a vu le troisième point qu'on a vu ensemble le week-end dernier, c'était important de se revêtir d'humilité parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et j'aimerais poursuivre ce matin par ce point-là, on va le creuser ensemble, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et aujourd'hui, dans les points que nous allons voir, on va tourner un peu de ce thème-là, pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux et pourquoi l'humble reçoit la grâce, parce qu'il est important pour nous de comprendre que l'humilité active la grâce de Dieu. L'humilité décuple la grâce de Dieu et nous avons besoin de grandir dans la grâce. La Bible dit que Jésus lui-même, lorsqu'il était enfant, a grandi en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
Laisse la place à la grâce ensuite dans notre vie.
Dans 1 Corinthiens 15, verset 19, l'apôtre Paul dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. »
L'humilité,
ici nous voyons que la grâce n'est pas juste le fait que Dieu nous pardonne et que son amour nous fait grâce de nos fautes. C'est pas ça du tout, uniquement. On voit ici que l'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et ensuite, il dit quelque chose de fort. Il dit, mais la grâce n'a pas été vaine. Et le danger que nous avons, vous et moi, c'est que la grâce que nous recevons de Dieu reste sans fruit, reste vaine, reste sans effet. Ça, c'est pas bon. L'apôtre Paul dit, mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine. Et il dit, j'ai travaillé plus que tous. J'ai été plus fructueux que les autres. Et après, il rajoute, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Cela nous montre que la grâce de Dieu augmente notre rendement, augmente notre efficacité pour Dieu. La grâce de Dieu est capable d'accomplir beaucoup plus de choses dans une vie que 10 000 vies avec tous nos efforts. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'on a besoin de sa grâce. La grâce de Dieu agit malgré nous-mêmes. La grâce de Dieu nous rend plus forts. Elle nous rend efficaces. Elle décuple notre capacité. On a besoin de la grâce de Dieu. Mais non seulement la grâce augmente notre capacité, mais comprenez bien ceci. La grâce nous permet d'être plus forts que le péché. La grâce, ce n'est pas une excuse pour pécher. La grâce, en réalité, est une puissance qui non seulement décuple notre capacité, mais c'est une puissance qui nous permet de dominer la puissance qu'est le péché. Donc lorsqu'on pêche, on n'est pas sous la grâce, mais sous la bêtise. Parce que celui qui est sous la grâce ne pêche pas. Romains 6, verset 14, nous le montre clairement. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ici, ce verset dit, le péché a une puissance, le péché a un pouvoir sur nous. Mais lorsqu'on est sous la grâce, cette puissance n'a pas d'effet. Donc ceux qui disent que je pêche parce que je suis sous la grâce, ne sont pas sous la grâce, mais sous la bêtise. Et ça nous arrive à tous de pécher. Et quand nous péchons, on ne peut pas dire qu'on est sous la grâce. Parce que lorsqu'on marche dans et sous la grâce, on a une force plus forte que la force que le péché. Une autre version dit, car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. La grâce est une force, est une puissance qui nous permet de dompter le péché. La grâce nous rend plus forts que la tentation. La grâce nous permet de résister à la tentation et de ne pas pécher. Et c'est très important, c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce. Sinon le péché est plus fort que nous. Mais Dieu fait grâce aux humbles. L'humilité décuple la grâce de Dieu dans notre vie. Et la grâce nous rend plus capables. Et la grâce nous permet d'être plus forts que le péché et sa tentation et sa séduction. Être sous la grâce, ce n'est pas être sous le péché. Être dominé par la grâce, c'est dominer le péché. Si on est dominé par le péché, on n'est pas sous la grâce. Amen. C'est pour ça qu'on a énormément besoin de grâce. Mais pour recevoir la grâce, nous devons apprendre à marcher dans l'humilité. Parce que l'humilité est cette vertu et cette qualité qui décuple la grâce de Dieu dans notre vie. C'est pour ça qu'elle est essentielle. La grâce est donc la victoire sur le péché. Donc l'humilité par la grâce nous rend forts. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » On a vu que l'humilité, ce n'est pas moins penser de soi, mais c'est moins penser à soi. On a vu que, bien sûr, l'humilité, ce n'est pas se vanter. Ce n'est pas se vanter, l'humilité, mais ce n'est pas non plus s'apitoyer sur ses faiblesses. Mais l'apôtre Paul, lui, il fait un mix des deux. Il ne se vante pas de ses forces et il ne se plaint pas de ses faiblesses, mais il se vante de ses faiblesses. Il dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il savait que dans sa faiblesse, par la grâce de Dieu, il allait être fort. Et ça, nous devons comprendre. Si je prends mon exemple, frères et sœurs, je n'aurais jamais pu vous prêcher la parole de Dieu si ce n'était pas la grâce de Dieu. Parce que moi, quand j'étais jeune, même lever la main à l'école, je n'aimais pas. Parce que je n'aimais pas parler en public. Donc, quand on disait qui avait une question, c'était surtout pas moi. Même si j'en avais en réalité. Et je préférais aller à l'arrière de la classe pour causer avec les camarades. Et si le maître posait une question, je préférais pas lever la main. C'était une faiblesse. Et quand Dieu m'a appelé à prêcher la parole, je me suis dit, oulala, des fois je marche un peu les mots, les che, les s. J'aime pas trop parler devant les gens. C'était une faiblesse. Mais quand je suis faible, alors je suis fort. Parce que Dieu se plaît de prendre nos faiblesses et de les transformer en force. Comment ? Par sa grâce. Sa grâce décuple nos capacités. Elle repousse nos limites. Nous avons besoin de sa grâce. Sa grâce nous permet de faire des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Hier, par la grâce de Dieu, par exemple, hier soir, il y avait une précieuse personne à l'arrière dans un fauteuil roulant. Et j'avais envie de prier pour lui, mais à la fin. Je dis, j'ai prié pour lui à la fin. Et je partage la parole de Dieu comme je vous partage ce soir. Et à un moment donné, l'onction de guérison a fait éruption dans le lieu à la fin. Et je dis, tous ceux et celles, Dieu me donne des paroles de connaissance par sa grâce. Sa parole est puissance. Et moi-même, je ne suis pas capable de faire ça. Et au moment donné, je donne des paroles de connaissance et je dis à ceux et celles qui ont senti Dieu les toucher, levez la main. Et à ma surprise, ce gars dans ce fauteuil roulant-là lève la main. Il est toujours dans le fauteuil roulant. Je dis, bon, ben, Dieu a dû toucher intérieurement. Et je dis, tous ceux et celles dont Dieu a touché, vous avez senti la présence de Dieu vous toucher, et ceux aussi qui n'ont pas été touchés de toute façon, allons se lever pour glorifier Dieu. Et le gars fait clac, clac dans ce fauteuil roulant, il fait boum, boum, et il se met debout. Par la grâce de Dieu. Ceux qui étaient là, nous-mêmes, on n'en revenait pas. Et après, il s'est mis à marcher. Et il nous disait, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. On ne comprend pas, non. Par sa grâce. Mais Dieu a fait ça malgré moi. Je ne gagne pas à faire ça, moi. Moi, je me suis dit, bon, à la fin, j'ai prié pour lui, s'il vient devant, Seigneur, il faut vraiment, là, je me dis beaucoup, un paquet de fois. Parce que de là, j'aurais peut-être pas eu assez de foi, mais dans ma faiblesse, Dieu est fort. Malgré moi-même, quand j'ai pas un paquet de foi, malgré tout, sa grâce fait la différence. Parce que Dieu veut faire grâce aux humbles. Et si on s'humilie malgré nous-mêmes, il va délimiter nos limites. Augmenter notre capacité. Amen. Il y a eu d'autres guérisons et miracles, et Dieu est bon. Nous avons besoin de sa grâce. Et Dieu fait grâce aux humbles. Tu as besoin de sa grâce pour ton couple. Tu as besoin de sa grâce pour ta famille. Tu as besoin de sa grâce pour ton travail. Tu as besoin de sa grâce pour tes finances. Tu as besoin de sa grâce pour tes relations avec tes enfants. Tu as besoin de sa grâce pour ton travail. Vous et moi, nous avons besoin de sa grâce. Et Dieu fait grâce aux humbles. Sa grâce nous affermit. Hébreux 13, verset 8, nous dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Le cœur est affermi par la bonté de Dieu. Lorsqu'on voit la bonté de Dieu se manifester envers nous, notre cœur est affermi. C'est pour ça que la Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Parce que lorsque tu découvres que Dieu est bon, waouh, ça t'encourage qu'il est bon avec toi. Et tu es affermi. Tu restes scotché à un Dieu qui est bon comme ça. C'est un bon père. Et comme je disais hier soir, Dieu prend plaisir à faire miséricorde. Il prend plaisir à faire grâce. Il ne prend pas plaisir à juger. Ce n'est pas son désir, même s'il est un juste juge, de juger nos fautes et nos péchés. Il a recours au jugement bien après qu'il ait maintes fois exercé sa bonté. Maintes fois, il nous a tendu la main. Parce que Dieu aime faire grâce. Sa nature même, son caractère, c'est la miséricorde. Dieu se délecte de te faire miséricorde. Dieu prend plaisir à te faire miséricorde. Il ne prend pas plaisir à nous juger, mais il fait grâce aux humbles. Dès qu'il y a de l'humilité, il est prompt à manifester sa miséricorde. Et c'est ce que Dieu veut pour toi ce matin. Le cœur est affermi par la grâce, parce que quand tu vois sa grâce, tu comprends que Dieu est bon. Et quand tu goûtes à sa bonté, tu as envie de changer. Amen. Deuxième point qu'on voit aujourd'hui, il faut vraiment que j'aille plus vite. Pourquoi est-il important de se revêtir de l'humilité? Parce que l'humilité plaît à Dieu. Elle attire sa présence. Vous savez, il n'y a pas que la foi qui nous rend agréable à Dieu. La Bible dit que sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. C'est vrai. Mais celui qui manque d'amour aussi, il y a un souci. L'amour est agréable à Dieu. Pratiquer la justice est aussi agréable à Dieu, nous dit Actes 10:45. Romains 12, verset 2 nous dit qu'être un sacrifice vivant, c'est lui être agréable. Donc il y a autre chose à côté de la foi qui est aussi agréable à Dieu. Et l'humilité est agréable à Dieu. L'humilité est quelque chose, est une qualité de caractère en laquelle il prend plaisir. Isaïe 57, verset 15 nous dit: car ainsi a dit celui qui est haut et élevé, qui habite dans l'éternité et duquel le nom est le saint. J'habiterai dans le lieu haut et saint et avec celui qui a le cœur brisé et qui est humble d'esprit, afin de vivifier l'esprit des humbles et afin de vivifier ceux qui ont le cœur brisé. On a vu ensemble qu'avoir le cœur brisé est différent d'avoir le cœur blessé. Un cœur brisé n'est pas un cœur offensé, c'est pas pareil. Mais celui qui est humble, Dieu dit qu'il vient le vivifier. Psaume 51, verset 19 nous dit: le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit humilié. Le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit humilié. Qu'est-ce que cela signifie? L'humilité, c'est le sacrifice que Dieu aime. L'humilité, c'est le sacrifice que Dieu aime. L'humilité est la qualité qui te rend irrésistible aux yeux de Dieu. La Bible dit que l'Éternel, du haut de son trône élevé, regarde la terre de loin, et de loin il voit les humbles. L'humilité, tu es repéré par Dieu à cause de l'humilité. Comme David, ce petit berger dans le champ, avec ses moutons. Dieu avait trouvé un homme selon son cœur, parce que cet homme-là était humble. Dieu l'avait repéré. L'humilité fait que tu es repéré par Dieu parmi des milliards de personnes. Nous devons comprendre ceci. Pourquoi l'humilité nous rend aussi irrésistibles à Dieu? Et pourquoi l'humilité est une qualité qui lui est agréable? Parce que vous allez voir qu'en général, celui qui manifeste une grande humilité manifeste aussi une grande foi. Les deux sont extrêmement liés, combinés. Une grande humilité va avec une grande foi. La Bible parle de la foi agissante par l'amour. On pourrait parler de la foi agissante par l'humilité. La Bible dit, les évangiles nous montrent, que les fois où Jésus a déclaré « Waouh, je n'ai jamais vu une aussi grande foi », en réalité, quand on étudie les évangiles, l'homme et la femme dans les évangiles où Jésus dit « Mais quelle foi !» En réalité, ils ont manifesté une grande humilité. Donc, plus tu es grand dans l'humilité, plus ta foi va être exponentielle. Et nous avons l'exemple avec le centurion dans Luc 7, verset 9, où Jésus dit « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » C'est comme s'il disait « Mais même dans toute l'église, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Le gars, c'est un centurion romain. Un centurion était à l'époque un gars élevé en statut social. Il a 100 personnes sous ses ordres, au minimum. Le gars a les moyens, il a construit des synagogues. C'est, je veux dire, dans le statut social, quelqu'un qui est élevé. Il envoie ses serviteurs voir Jésus pour que Jésus vienne guérir. Pas lui, un de ses serviteurs, même pas lui. Et quand ses serviteurs disent à Jésus, tu peux venir chez lui ? Jésus dit, je vais venir. Il dit, non, juste ton accord, c'est bon. Dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Pas la peine de venir. Et Jésus fait, wow ! Mais même dans toute Israël, je n'ai jamais vu ça. Pourquoi ? Parce que ce centenier, ce centurion, même avec le statut social qu'il avait, a manifesté une grande humilité. Avec d'autres qualités, mais surtout l'humilité est en évidence. Il savait que Jésus ne lui doit rien. Il savait qu'il était indigne de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Et donc il dit, Seigneur, même pas la peine de venir chez moi. Combien parmi nous ici, si Jésus serait vivant, on aurait aimé qu'il soit chez nous et qu'on ait remis sur Facebook, sur Internet, Jésus chez moi ce midi. Écoute, je veux pas vraiment le dire partout, mais au cas où, quoi, tu sais pas que Jésus est chez moi, quoi. Tu as besoin de quelque chose que je demande pour toi ? Le centurion lui fait l'inverse. Non. Pas la peine de venir chez moi, un mot. Et son humilité est fracassante. Parfois, nous prions, nous, comme si Dieu nous doit quelque chose. Parce que je viens à l'église, parce que je suis pasteur, parce que je prie tous les jours, parce que j'adore, parce que je lis la parole. Alors, c'est comme si Dieu me doit quelque chose. Frères et sœurs, Dieu ne nous doit rien. Parce que j'ai semé dans les offrandes, il faut que mon entreprise marche. Dieu ne nous doit rien. Le centurion avait compris ça. De lui-même, il avait aidé à lui tout seul à financer plusieurs synagogues. À lui tout seul, son business permettait d'implanter plusieurs églises. Et il dit, Dieu ne me doit rien. Un mot, même pas la peine de venir chez moi. Jésus fait, waouh ! Jésus voulait venir en plus chez lui. Oh, combien on doit marcher dans l'humilité. Ce qui est bien dans l'histoire du centurion, c'est qu'on voit qu'ensemble, on a encore beaucoup de progrès à faire. Ce qui est encourageant, c'est qu'on a quand même une marge de progression. Vous savez, c'est différent avec un autre général des armées dans l'Ancien Testament qui s'appelle Naaman. Naaman vient voir le prophète Élisée et il est lépreux. Et il s'attend à ce que le prophète Élisée sort. Et comme je disais hier, lui fait un kata de simagré pour qu'il soit guéri. Élisée, le prophète, ne prend même pas la peine de sortir. Élisée envoie son serviteur et dit lui, va se tremper cette fois dans l'eau, dans le Jourdain. Et là, Naaman, le général, est furieux, pas bon. N'importe quoi. Comme si dans mon pays, il n'y a pas des rivières plus propres et plus belles que celles que le Jourdain. Et puis, il y a un petit serviteur qui lui dit, mais mec, si le prophète t'avait demandé vraiment quelque chose de difficile, je ne sais pas moi, un grand raid. J'ai compris. Mais il te demande quelque chose de simple. Fais la danse des canards cette fois. Point, 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 point. Trempe-toi cette fois dans l'eau. Et tu seras guéri. Normalement, ok, accepte. Et il se trempe cette fois et il est totalement guéri. Mais il est passé près de louper sa guérison. Pourquoi ? Parce que son orgueil faisait interruption. Notre orgueil court-circuite le désir que Dieu a de venir nous délivrer. Et parfois dans nos vies, nous sommes comme Naaman. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Et Dieu veut venir faire grâce, mais il résiste aux orgueilleux. L'orgueil de Naaman a failli le faire perdre sa guérison. Combien parmi nous, parfois, nous passons à côté du miracle que Dieu a pour nous à cause d'un manque d'humilité. Un autre point, pourquoi est-il important de se revêtir d'humilité ? Parce que Dieu console les humbles. 2 Corinthiens 7, 6 nous dit « Mais Dieu qui console les humbles. » Dieu console les humbles. Il aimerait consoler les orgueilleux, mais il ne peut pas, parce que les orgueilleux ne reçoivent pas la consolation. Psaume 18, 28 nous dit « Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. » L'humilité active la consolation de Dieu dans notre vie. L'orgueil court-circuite la consolation de Dieu. L'humilité active le miracle de Dieu dans notre vie. L'orgueil repousse le miracle de Dieu dans notre vie. J'aimerais vous illustrer l'autre histoire dans la parole de Dieu où Jésus dit « Waouh, ta foi t'a sauvé ». C'est l'histoire avec la femme cananéenne. Vous savez que cette femme, la plupart d'entre vous le savez, sa fille était possédée. Il nous faut comprendre ceci. Un cananéen était, aux yeux du peuple juif, était considéré comme des chiens. Parce que c'était un peuple très idolâtre et Dieu les avait donné la terre promise pour les chasser, Canaan. Les cananéens étaient idolâtres, ils sacrifiaient leurs enfants, faisaient beaucoup de sorcellerie. Bref, et cette femme, sûrement par son style de vie, à cause de sa famille et de ses coutumes, a dû ouvrir des portes énormes afin que sa fille soit possédée. Et elle vient voir Jésus parce qu'elle sait que Jésus guérit. Elle vient voir Jésus parce qu'elle sait que Jésus fait des miracles. Elle sait que Jésus chasse les démons. Et elle vient le voir. Et Jésus a une réaction assez rude au départ. Nous allons comprendre ce matin pourquoi. Matthieu 15, 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Waouh! Comprenons bien ce qui se passe ici. Cette femme a l'habitude de se prosterner devant des idoles. Et Jésus est direct avec elle dans son discours, est ferme. Et au départ, il ne fait même pas un cas avec elle. Et pendant que Jésus ne l'écoute même pas, la Bible dit qu'elle se prosterne devant lui. Combien de fois ça nous arrive de ne pas être écouté par Dieu dans nos prières ? Est-ce que nous continuons à nous prosterner devant lui ? Ou à dire n'importe quoi, t'es... Ensuite, Jésus voit que la femme commence à changer d'attitude. Elle commence à s'humilier, à se prosterner devant lui. Et cette fois-ci, il lui dit une parole quand même dure. Il lui dit, mais le pain des enfants n'est pas fait pour être donné aux petits chiens. Je ne sais pas, elle aurait peut-être dû dire aux grands chiens. Ou aux chiens tout court. Au petit chien. Là, c'est, comme on dit en créole, c'est un causement. Là, c'est ouf. On a de quoi réellement s'offenser. En général, nous, si quelqu'un ne nous dit pas bonjour, on s'offense. N'en parlons pas si quelqu'un nous parle comme ça. Et là, ce qu'elle fait, cette dame, c'est qu'elle dit oui, mais maître, les petits chiens mangent même les miettes qui tombent de la table des enfants. Et là, Jésus fait, wow, femme, ta foi est grande, qu'il soit fait selon que tu veux. Comprenez bien, Jésus ne voulait même pas forcément qu'elle soit guérie. Mais sa foi fait la différence parce qu'elle a manifesté une grande humilité. Jésus avait compris. Et si Jésus était rude avec elle, c'est pas parce qu'il manque d'amour, c'est parce que Jésus a un discernement extraordinaire. Il avait besoin d'abattre l'homme fort. Il ne s'occupe pas des branches. Il savait que son style de vie était très idolâtre et que s'il y avait un paquet de démons qui tourmentaient sa fille, c'est parce que l'orgueil qui était manifeste dans leurs coutumes allait faire obstacle à la guérison qu'elle demande. Alors Jésus la teste d'entrée de jeu et la met à un test d'humilité extrêmement élevé. Si elle passe le test, la grâce qui va découler de son humilité va faire exploser les démons qui tourmentent sa fille. Et elle passe le test. Elle s'humilie. Et elle dit, mais les miettes me suffisent. Même si tu ne fais pas un compte avec moi, même si tu ne me regardes pas, je me prosterne devant toi. Même si je n'ai pas du pain, dis quelque chose, Seigneur. Et elle n'est pas offensée par la parole du Seigneur. Et son humilité fait en sorte que les démons sont immédiatement expulsés, sans délai, de sa fille. Parce que Jésus savait que s'il y avait de l'orgueil, de l'incrédulité, des peurs, tout ça fait qu'on manque d'humilité. Elle n'aurait pas obtenu le miracle qu'elle demandait. Mais si elle choisissait de s'humilier, alors Dieu fait grâce aux humbles. Et la grâce est cette force qui dompte le péché, qui domine Satan et son armée. Combien parmi nous sommes si souvent offensés par les réactions des autres? Combien parmi nous, comme je disais tout à l'heure, on ne dit pas bonjour ou franchement, regarde comme il m'a regardé ou tu as vu comment il a réagi envers moi et là... Et on ne se rend pas compte. Jésus était ferme avec elle, mais l'humilité qu'elle a manifestée lui a ouvert des portes énormes. Écoute bien ceci. Lorsque nous sommes humbles, Satan n'a pas affaire à nous, mais à Dieu en nous. Lorsque nous sommes humbles, Satan n'a pas affaire à nous, mais à Dieu en nous. L'humilité élève Jésus. L'humilité nous permet réellement de le glorifier, de le magnifier. L'humilité, c'est qu'il croisse et que je diminue. L'humilité est extraordinaire parce que l'humilité nous permet de voir qu'on a un grand Dieu et des petits soucis. L'orgueil nous fait voir qu'on a des grands soucis et un petit Dieu. Mais l'humilité, non. Elle a focalisé son attention sur Jésus. Et elle savait qu'il était capable de faire la différence. L'âme remet le jugement entre les mains de Dieu. L'orgueilleux se défend toujours, mais l'âme laisse Dieu le défendre. Un autre point, je vais essayer d'aller encore plus rapidement maintenant. Pourquoi est-il important de se revêtir d'humilité? Parce que l'humilité nous offre la paix et le repos. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que nos âmes ont besoin de repos, et nos âmes peuvent trouver du repos uniquement dans l'humilité de Christ. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, devenez mes disciples. Recevez mes instructions. Pour quelle raison? Il dit parce que je suis doux et humble de cœur. Il ne dit pas parce que je suis le Tout-Puissant. Il ne dit pas laissez-moi vous enseigner parce que je suis le plus sage. C'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas laissez-moi vous enseigner parce que je suis vraiment la sagesse personnifiée. Pourtant il l'est. La raison pour laquelle il nous dit de venir et être ses disciples et le suivre, c'est parce qu'il est doux et humble de cœur. Imaginez un prof de fac qui dit « Venez dans ma faculté, je vais vous enseigner parce que je suis doux et humble de cœur. » On va dire « Ça va pas, non ? Quel diplôme tu as, toi ? C'est quoi ton cursus scolaire ?» Mais pour nos âmes, l'humilité et la douceur est nécessaire. Cela signifie que nous pouvons être forts, intelligents, puissants. Si nous manquons d'humilité, nous manquerons de repos et de paix. Peu importe notre statut social, peu importe les moyens que tu as financièrement ou matériellement, peu importe d'où tu viens, si on manque d'humilité, on manque de paix. C'est pour ça qu'il est important de se revêtir d'humilité. Un autre point, parce que l'humilité est la vraie grandeur dans le royaume de Dieu. Vous savez, les disciples marchaient dans la puissance que Christ leur avait donnée. Et ils étaient en rivalité. Ils étaient en train de regarder qui faisait plus de miracles, qui réellement était le plus grand. Et Jésus dit dans Matthieu 18, 4, pour conclure le débat, il met un petit enfant au milieu d'eux et leur dit, c'est pourquoi quiconque deviendra humble comme est ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Tout à l'heure, j'ai discuté avec le pasteur Jérémy et il me faisait rire parce qu'il disait un petit enfant qui est arrivé à un moment donné à la fin d'une célébration et Jérémy a prié pour lui. Et ce petit garçon vient voir sa maman après et puis il dit « Maman, Olivier Chou a prié pour moi. » Je sais pas, je trouve que Jérémy ressemble pas trop à Olivier Chou. Je trouve que Jérémy ressemble pas trop à Olivier Schwab. Jérémy se marre. Et là, je dis à Jérémy, je dis, tu vois Jérémy, ce qui est bien avec les enfants, là, c'est que les enfants, ils discernent dans l'esprit. C'est-à-dire les enfants... Attendez. C'est-à-dire les enfants, ils voient jamais les hommes selon la chair. Pour eux, il n'y a ni noir ni blanc. Et ça, c'est bon de voir qu'en réalité, oui, c'est vrai que les enfants, là, ils s'est trompé, mais les enfants, lorsqu'ils sont petits, ils ne vont pas faire la différence de couleur. Ils n'ont pas de haine pour la différence de couleur. Garçon, fille, s'en fiche. Ils apprennent à jouer avec celui qui veut jouer avec eux. Ils n'ont pas de rivalité de race ou de performance au départ. Ça vient en grandissant. Et Jésus dit à ses disciples, arrêtez-vous d'être rivaux comme ça. Soyez humbles comme ces petits-enfants. Confond Olivier Choua et Jérémy. C'est-à-dire, arrêtez de vous comparer. Arrête de comparer hommes et femmes. Arrête de comparer noir et blanc. Arrête de comparer celui qui a 10 talents et un talent. Arrête. Arrête de te comparer aux autres. Sois comme un enfant. C'est ce que Jésus veut dire ici. L'humilité est la vraie grandeur dans le royaume de Dieu. Pourquoi est-il important de se revêtir d'humilité? Parce que l'humilité assoit notre autorité. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, à plusieurs reprises, on voit Jésus sur le trône. Et bien que Jésus est le lion de la tribu de Juda, l'Apocalypse, lorsqu'il parle du trône, parle toujours de l'agneau sur le trône. Le trône est le symbole de l'autorité et l'agneau est le symbole de l'humilité. Pour grandir dans l'exercice de l'autorité, il faut grandir dans notre revêtement de l'humilité. C'est très important. Parce que c'est l'agneau qui est sur le trône. Même si Jésus est le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 7, 17 nous dit « Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive et Dieu lui-même essuiera toute larme. » Waouh ! Et Dieu lui-même essuiera toute larme. Dieu veut te rendre joyeux ce matin. L'humilité nous rend joyeux. On a vu la semaine dernière, la Bible dit « Réjouissez-vous tous les humbles ». Et ce matin, le Seigneur veut que tu sortes de ce lieu avec la joie de Dieu dans ton cœur. Avec plus grande mesure d'humilité qui amène plus de paix, plus de joie. Afin que tu vois tes problèmes rétrécir et tu vois Jésus grandir. Et que tu découvres, réalises, expérimentes que celui qui est en toi est bien plus fort, bien plus grand que celui qui est dans le monde. Dernier point ou avant-dernier point, quelques points par là. Parce que l'humilité amène nos prières à être entendues par Dieu. C'est pour ça qu'il faut se revêtir d'humilité. Daniel 10, 12 nous dit, « Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » À partir de quand ces paroles ont été entendues? Dès qu'il a cherché à comprendre et dès qu'il a cherché à s'humilier. L'humilité, c'est un microphone. L'humilité, c'est un mégaphone. Pour que Dieu entende nos prières, il ne suffit pas de crier fort. C'est pas en criant fort que la prière va monter au ciel et être entendue de Dieu. Tu peux même parler doucement. Mais si ce doucement-là est connecté avec un cœur humble, l'humilité transforme cette parole, peut-être pas forte, en une parole qui résonne dans les lieux célestes. Parce que l'humilité agit comme un microphone. Un mégaphone qui permet à Dieu d'entendre ta voix. Parmi les myriades et les myriades d'anges et d'hommes qui font monter vers lui des prières, Dieu entend la prière des humbles. C'est pour ça qu'il est important de se revêtir d'humilité. Ça donne de l'efficacité à nos prières. L'humilité permet aux anges de courir sur une avenue pour venir exaucer la prière qu'on fait monter vers lui. Un autre point, pourquoi est-il important de se revêtir d'humilité? Parce que l'humilité, c'est la porte qui nous conduit vers la croissance. Jacques 4, 10 nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera ». Proverbe 29, 23 nous dit « L'orgueil de l'homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. C'est-à-dire que l'humilité laisse place à l'honneur. L'humilité laisse place à la promotion. L'humilité laisse place à la gloire, à la réputation. L'humilité laisse place à l'élévation. L'humilité te met en l'air. L'humilité, c'est le chemin pour la promotion. L'humilité, c'est le chemin vers la croissance spirituelle. Tu veux grandir spirituellement, l'humilité est nécessaire. Tu veux manifester plus d'autorité, de puissance, tu veux voir une croissance dans ta vie, des signes, des miracles et des prodiges. L'humilité est une clé. C'est le comment important. Un des comment pour grandir spirituellement. Un autre point encore, un paquet de points vraiment. Parce que l'humilité ouvre nos yeux spirituels. Abdias 3 nous dit, l'orgueil de ton cœur t'a séduit. Le mot séduit signifie que l'orgueil aveugle. L'orgueil nous tord notre perception des choses. Ça fausse notre vision. On ne voit pas clair avec l'orgueil. Vous savez, Samuel me rappelait une image qu'avait donnée un homme de Dieu. Et il disait, dans une vision qu'il avait reçue, un jour, il est pris dans l'esprit. Et à un moment donné, il est là, et il est tellement glorieux dans l'esprit que la lumière de son corps de gloire jaillissait partout. Et Jésus lui dit, mets le manteau d'humilité et tu verras ce qui se passe. Et quand il met le manteau d'humilité et qu'il recouvre la gloire de Christ qui brille en lui, cette gloire qui vraiment aveuglait ses yeux, maintenant est cachée par l'humilité. Et il commence à voir au loin qu'il y avait une armée d'ennemis au loin et derrière lui, il y avait un paquet de démons qui allaient le fracasser. Mais que s'il était resté orgueilleux, il n'aurait pas vu les démons arriver. Mais qu'il a revêtu le manteau d'humilité, il les a aperçus. Parce que l'orgueil nous aveugle. Psaume 19, 13 nous dit, qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. alors je serai intègre et je ne commettrai pas de grands péchés. Alors je serai intègre et je ne commettrai pas de grands péchés. Waouh. David dit avec humilité, je ne peux pas savoir toutes mes fautes. Je fais des... Moi, Steph, je fais plein de choses qui doivent déplaire à Dieu. Mais je ne sais pas toutes mes fautes. David dit, qui discerne toutes ses erreurs? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve-moi de ce sentiment d'orgueil qui aveugle. Vous savez, souvent, dans les couples, lorsqu'il y a une dispute, c'est toujours la faute de l'autre, plus. Et dans la dispute, quand on est rempli de nous-mêmes, parce que la Bible dit que toute dispute vient de l'orgueil, nous, on a raison et l'autre a tort. Et du moment que un ou l'autre commence à s'humilier, que le pardon commence à arriver, les deux commencent à dire, bah, c'est ma faute aussi, pardon, c'est moi. Ben, franchement, je voulais pas dire tout ça, mais pourquoi j'ai dit tout ça? Et on se rend pas compte de toutes les bêtises qu'on a pu sortir convaincu que c'était bon ce qu'on disait. Aveuglé dans notre orgueil. Alors que quand on s'humilie, on voit clair. Et si, du coup, quand on est orgueilleux, l'autre a tort à 95%. Quand on s'humilie, on a tort à 99%. Là, la vision est... Oh, j'étais à l'ouest vraiment là. Pardon, ma chérie. Et ça, c'est incroyable. Mais l'humilité nous rend la vue. Je terminerai sur Michée 6, verset 8. La Bible dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Waouh! Trois choses simples que Dieu nous demande. C'est que tu aimes la justice, que tu pratiques la miséricorde. Tu aimes la miséricorde. Aimer, c'est pratiquer. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pas plus compliqué que ça. Et je crois que le peuple de Dieu que nous sommes, si nous vivons de Chroniques 7, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom prie, s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays, je guérirai son cœur, je guérirai son couple, je guérirai son corps, je transformerai sa tristesse en allégresse, je lui donnerai la paix à la place de la guerre. Je lui donnerai du repos à la place du tourment. Je transformerai ses angoisses en joie. J'enlèverai ses inquiétudes. Imaginez ô combien on est gagnant si on apprend à marcher dans l'humilité.